Beat FM. Bonjour à tous, Jacqueline Voraz, micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe et bon anniversaire Christophe. Bienvenue et merci d'être fidèle au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM 98 ou IDFM98.fr. Nous connaissons Octobre Rose. Mais connaissez-vous Septembre en or? Aujourd'hui, pendant vendredi 30 septembre, l'économie en direct se donne pour mission de mettre en lumière ces associations et entreprises qui s'investissent dans la lutte contre le cancer. Et pour en parler avec nous dans le studio, alors pas dans le studio parce que malheureusement Vanessa DeVos s'est trouvée positive au Covid hier, donc nous allons l'interviewer par téléphone. Mais donc Vanessa est infirmière cadre de santé, vice-présidente fondatrice de l'association Élise Princesse Courageuse, maman d'Élise, partie bien trop tôt le 16 juillet 2019 à l'âge de 9 ans après 6 ans de combat contre une tumeur au cerveau. Et Vanessa DeVos nous parlera de Septembre en or et avec elle nous découvrirons qui était sa fille Élise. Dans le studio aujourd'hui, Cécilia Olson. Bonjour Cécilia.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir à nouveau, chère Cécilia.
Merci.
Vous faites partie de l'entreprise GE Healthcare, un des leaders mondiaux de la fabrication d'imagerie médicale, où vous êtes manager de cycle de vie en produits de la santé de la femme, dont la mammographie. Et toujours au sein de cette entreprise, vous êtes patient advocate qui peut se traduire par défenseur ou ambassadrice des droits des patients. Vous nous redirez en quoi consiste ce titre de advocate patiente et comment cette année encore, à l'occasion du mois d'octobre, à travers des initiatives de sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage, GE Healthcare, en partenariat avec Roche, souhaite réduire les inégalités d'accès à l'information et au dépistage en allant à la rencontre du grand public.
Absolument.
Et à vos côtés, Colin Auclair. Bonjour Colin.
Bonjour.
Merci pour votre présence. Colin, chez GE Healthcare, vous êtes responsable de produits santé de la femme, secteur mammographie et radiologie. Et géographiquement, vous rayonnez en France, au Benelux et en Afrique francophone. Cécilia Olson, donc merci Cécilia et Colin, merci d'être à nos côtés. Bienvenue à tous les trois, puisque je crois que Vanessa DeVos est en ligne et je vais lui donner la parole très très vite. Bonjour Vanessa DeVos.
Bonjour. Bonjour à tous.
Merci Vanessa de pouvoir participer à l'émission malgré vous avez un gros rhume finalement, c'est ça?
Oui, bah je suis isolée quelques jours, on va dire.
Ah, voilà. Carrément isolée.
Voilà.
Alors Cécilia, j'ai présenté Septembre en or dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Parce que le cancer fait peur, et peut-être plus encore chez les enfants. Cette opération Septembre en or permet de mieux lutter contre les cancers pédiatriques. Et donc, vous regrettez que cette opération ne rencontre pas le même succès qu'Octobre Rose ?
Oui, c'est bien ça. Oui, je suis un petit peu là aussi aujourd'hui pour parler peut-être avant de Octobre Rose, Septembre en or, qui vise à vraiment à mettre en lumière la lutte contre le cancer des enfants et notamment ses besoins qui sont vraiment particuliers, ses espoirs, ses histoires et vraiment tous les acteurs de la lutte contre le cancer de l'enfant. Ouais.
Absolument. Alors ce Septembre en or, il est inspiré du Gold in September, né aux États-Unis en 2012, et il cherche à sensibiliser la population à collecter des fonds pour faire avancer la recherche, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré les progrès de la recherche, le cancer touche chaque année environ 2500 enfants et est responsable de près de 500 décès, soit la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de un an.
C'est ça. Tout à fait. Il y a tout de même en fait un enfant hein, sur 440 qui sera touché en fait hein, par le cancer avant l'âge de 15 ans.
Oui, oui. Ouais. Même si on parvient à guérir 80% de ces cancers avec des traitements de plus en plus adaptés, mais voilà, il y a encore des progrès à faire. Et Vanessa DeVos, donc, je voudrais que vous nous parliez d'Élise, votre petite Élise. Qui était Élise ?
Oui, oui, bah écoutez, Élise, c'était une petite citoyenne hein, qui était âgée de 3 ans au diagnostic de sa lésion cérébrale.
Oui.
Qui est une des lésions les plus fréquentes en fait du cancer pédiatrique après les leucémies. Elle a eu 6 ans de parcours, donc à 3 ans et demi, forcément, c'est un diagnostic qui bouleverse toute la famille.
Bien sûr, oui.
Auquel il faut faire face. Vous faites face à un tsunami, un bouleversement total. Élise a montré qu'à travers le cancer de l'enfant, il y avait quand même une personne derrière tout ça. Il y avait quand même un impact, en fait, sur toute la famille, qui était vraiment psychologique, physique, financier. Et Élise a voulu, en fait, sensibiliser déjà à travers l'art et la création. Vraiment porter la voix des enfants à travers des ateliers, à travers sa peinture qu'elle offrait. Donc, pour parler, pour sensibiliser, elle avait perçu tout au long de ses 6 ans que l'adulte était réellement mal à l'aise.
Oui, elle avait acquis une maturité certaine, probablement, avec les traitements.
Tout à fait. Et puis le parcours, 6 années, c'est-à-dire que on vous annonce le cancer, vous rentrez du coup dans un chemin thérapeutique, mais ça se termine pas comme ça. Vous pouvez sortir soit par la rémission, soit par le décès, mais voilà, ça impacte toute la famille. Et il faut vivre le quotidien. Et c'était une manière de rester actrice de tout ça. Voilà, donc comment expliquer avec des mots d'enfant, comment les rendre acteurs. Donc elle a mis en place aussi des ateliers porte-clés, petits amis qui sont devenus l'emblème de l'association. Et c'est comme ça qu'en 2017, lors de sa rechute, quand son médecin oncologue nous a annoncé qu'il n'y avait pas de traitement dédié à sa tumeur, Élise s'est dit, bien sûr, c'est un bouleversement, mais elle s'est dit, ok, à ce jour, il n'y a pas de traitement, mais on va garder espoir, et moi aussi, je veux porter ma voix, je veux aider les docteurs, et donc elle a commencé à lever les premiers fonds en vendant ses petits porte-clés. Donc voilà, aujourd'hui, on a plus de 45 000 qui voyagent dans le monde entier. Mais ça a été un message fort, en fait, de faire entendre la voix des enfants. C'est-à-dire qu'à 7 ans, on peut être aussi capable, alors même pour nous parents, hein, d'entendre.
Oui, ça a interpellé, bien sûr. Oui.
Voilà, son mot à dire, jusqu'à effectivement porter sa voix auprès du président.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, ouais. Oui, on en parlera tout à l'heure. On parlera de la loi Elimas tout à l'heure. Vanessa DeVos, donc aujourd'hui, bien sûr, vous continuez l'action de Élise qui, à travers tout ce qu'elle a mis en place, continue de porter l'association quelque part.
Bien sûr.
Complètement. Alors, dites-nous quelles sont les grandes missions de cette association.
Alors, il y a trois grands axes hein, qui sont de sensibiliser et de mobiliser, hein, comme je l'expliquais, avec des moyens simples et ludiques d'aller au contact des citoyens. Le soutien des familles, des enfants malades par diverses actions. Et puis soutenir la recherche, que ce soit en lien avec Gustave Roussy, mais d'autres grandes aussi associations, fondations, comme la course Enfants sans cancer ou des jeunes chercheurs. Du coup, donc l'idée, c'est vraiment effectivement d'apporter sa petite graine et de faire du lien pour du coup améliorer en fait cette prise en charge du cancer de l'enfant.
Très bien.
Ouais. Et reconnue maladie rare, en fait.
Oui, et j'ai oublié de dire que l'association était reconnue d'intérêt général. Hein, j'avais oublié de le dire en début d'émission.
Oui.
Et surtout, vous continuez le combat avec notamment Bulle de Mode. Expliquez-nous ce projet.
Oui, Bulle de Mode, c'est vraiment parti d'un retour d'expérience avec Élise, mais mon double regard aussi de maman infirmière et celle de nombreuses familles en fait que l'on a rencontrées dans le parcours de soins, partant du principe que vraiment le cancer pouvait impacter physiquement, psychologiquement et financièrement. On a pu travailler sur ce projet, sur justement ces différents impacts hein, d'une peau qui pouvait être abîmée, une perte de
beaucoup
poids.
Plus irritable, oui, oui.
Voilà, les douleurs, la perte de l'estime de soi. Et à travers ces impacts relevés et se rapprochant de différents acteurs, vraiment ouvrir en fait les portes à un enjeu sociétal en fait, hein, de responsabilité sociétale et vraiment multi-acteurs. C'est-à-dire que le vêtement, on sait tous quoi, il nous accompagne tous les jours quand il est bien adapté. Voilà, à nos envies, on peut se sentir bien, performant. Mais quand tout bascule, quand la maladie prend le pas, quand les traitements vraiment nous impactent, ça devient compliqué et on se pose vraiment les questions. En fait, comment on va trouver un vêtement esthétique, confortable, compatible avec les soins ? C'est important pour l'enfant, pour la famille, mais pour le soignant. Comment on ajuste sans cesse cette garde-robe ? Voilà. Et en fait, d'un autre côté, j'avais ce regard de cette industrie de la mode qui était vraiment peu ouverte, ou alors avec des prix très importants aux vêtements inclusifs. Donc du coup, j'ai essayé de répondre en fait avec toute une équipe de stylistes, notamment des designers, stylistes médicales, me rapprochant des entreprises, mais aussi de grosses associations reconnues d'utilité publique, telles que Don Solidaire qui lutte contre les invendus, pour porter ce projet. Donc ça a débuté effectivement par Petit Bateau, qui a vraiment été sensible à travers Don et Solidaire, qui a fait le premier don de vêtements. Donc vraiment ce projet, il est on va dire un petit peu en avant-première en partenariat avec Gustave Roussy. Et depuis un an on développe du coup sur Gustave Roussy ces dons de vêtements. Donc d'autres partenaires nous ont rejoints tels à travers Don Solidaire, tels que Okaidi, Jacaidi, pour justement lutter contre ces différents impacts, organiser des ateliers Bulle de Mode. Et à travers ces journées ateliers où nous sommes aidés en mécénat de compétences par la grande maison de couture rue Cambon et des stylistes.
Je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit.
Voilà, nous intervenons sur place dans le parcours de soins en proposant des ateliers de customisation, mais aussi d'adaptation. C'est-à-dire que l'enfant, la famille, le soignant vient choisir en fait le vêtement comme tout le monde, hein, comme dans un showroom, et il choisit soit son adaptation, soit de le customiser. Il y a aussi une proposition de transmission de savoir. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un travail en multi-acteurs.
Ouais, oui, une chaîne magnifique. Et comment fait-on pour trouver ces vêtements ?
Alors, pour l'instant, ces vêtements, on les adapte, on les réalise à travers ces journées Bulle de Mode. Donc, notamment, la prochaine, ce sera le 19 octobre à Gustave Roussy et le 14 décembre. Okay. Alors, vraiment, l'idée, hein, c'est de continuer à structurer, lever des fonds pour pouvoir offrir, du coup, ces vêtements.
Oui.
Là, on travaille sur le projet avec un atelier justement de couture, hein, que ça puisse être accessible et bien sûr toujours gratuitement, hein, au profit des familles concernées par le cancer de l'enfant, plus d'hôpitaux possibles. Donc ça peut en proximité dans le Val d'Oise, mais d'autres hôpitaux de référence. Et c'est, pour l'instant, ils sont disponibles à travers ces journées. On fait une journée tous les deux mois. À ce jour, nous sommes à 1500 vêtements offerts.
Très bien.
À travers ces journées depuis un an, et 200 adaptations qui ont pu être faites et offertes aux familles et aux soignants aussi. C'est important de ne pas oublier ce pas, quoi, enfin, dans le chemin thérapeutique.
Très bien. Bravo Vanessa pour ces belles actions. Alors le cas d'Élise, qui, je rappelle, l'association c'est Élise Princesse Courageuse, a ému. Vous parliez de notre président Emmanuel Macron, et Nathalie Elimas, qui était secrétaire d'État qui a connu Élise. Élise lui a inspiré une loi sur la prise en charge du cancer pédiatrique. Si vous voulez nous en dire un mot.
Oui, tout à fait. Enfin, Élise et bien sûr bien d'autres enfants, mais effectivement, on a pu témoigner comme d'autres familles et faire partie, enfin voilà, de ces propositions à travers cette loi. Cette loi, elle a pour but de renforcer en fait la prise en charge des cancers pédiatriques sur vraiment quatre points qui étaient la recherche, le soutien aux aidants, la formation des professionnels de santé et le droit à l'oubli. C'est vraiment un encouragement en fait pour renforcer toutes ces missions qui sont proposées dans une stratégie plus large en fait décennale de la lutte contre le cancer.
Très bien. Et aujourd'hui, où en est cette loi? Si elle a évolué?
Alors, j'aurais tendance à vous dire, en tant que parent ou même soignant, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'impulsion est faite. Mais il y a tout de même des avancées sur quatre objectifs majeurs, sur comprendre les causes. C'est une grosse demande des familles, des soignants, et vraiment identifier des nouvelles pistes de traitement sur notamment des tumeurs incurables telles que le gliome infiltrant tumeurs réfractaires telles que celle d'Élise, et favoriser l'accès des enfants aux médicaments innovants. Ça, c'est vraiment, il y a une grosse impulsion, et aussi travailler sur les effets indésirables. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter vraiment de manière très factuelle, il y a eu une augmentation des appels à projets en pédiatrie à travers l'INCa, un gros travail aussi de structuration en travaillant avec les trois fédérations de collectifs de parents qui sont Gravir, Grandir sans cancer, l'UNAPEC. Donc, et vraiment concrètement, on peut retrouver un portail, une nouvelle plateforme qui a été lancée là le 15 février à l'occasion de la Journée mondiale du cancer de l'enfant, et du coup qui vise à répondre aux interrogations des jeunes patients et des familles. Donc ça, on peut le retrouver facilement. C'est très important aussi le droit à l'information. Donc des actions concrètes, il y en a, et il faut que ça continue. Il y a un gros travail qui est fait aussi sur le partage de l'information. Ça, c'est vraiment très important au niveau de la recherche, que ce soit pour les familles, mais surtout pour les chercheurs.
Vous voulez dire que les informations circulent entre les chercheurs?
C'est très important, et là il y a un gros travail de fait justement, et dans ce domaine-là, dans ce champ sur le partage des données, ouais.
Vous sentez que ça bouge de ce côté-là.
De toute façon, il faut que ça bouge. Après, et d'ailleurs, on peut noter aussi, au-delà de, enfin, je veux dire, de cette loi et de la France, c'est quand même, enfin, pour la première fois, on retrouve quand même le cancer de l'enfant au niveau de la mobilisation européenne. Donc, on sent que, voilà, on commence. Il y a un début, hein, comme on dit, on peut pas comparer ça à Octobre Rose, mais il y a un début de oui, une amorce.
Une vraie prise de conscience par rapport à ce cancer pédiatrique. Ce que je voulais signaler aussi, Vanessa DeVos, pour donner vraiment le sens de votre caractère, c'est que vous avez aussi repris vos études. Hein. Vous faites un Master 1 en éthique santé à l'espace éthique Île-de-France. Donc, c'était important aussi pour vous de reprendre ces études.
Oui, c'est au-delà de voilà du départ de ma fille et de ces 6 années de combat, forcément ça nous questionne. Enfin, je suis infirmière depuis plus de 20 ans. Et voilà, c'est aussi une manière d'avancer, de chercher des réponses et de faire avancer aussi une problématique taboue en France. Donc j'ai terminé cette année effectivement le master 1 sur le mémoire, le sujet de mémoire qui était l'adaptation de la dignité, voilà, dans le parcours de soins en oncologie pédiatrique. Donc c'est aussi une manière comme une autre d'avancer.
Très bien, je pense que tout ce que vous nous dites doivent bien interpeller mes deux autres invités, Cécilia Olson et puis Colin Auclair de GE Healthcare. Et voilà, c'est dommage que nous puissions pas nous rencontrer tous ensemble, mais ce sera peut-être une autre fois, Vanessa, j'espère.
J'espère, je suis la vraie.
Merci, mais non, je vous en prie. Merci infiniment, Vanessa DeVos, pour votre combat et puis votre détermination. Merci de nous avoir présenté Élise, votre petite fille, et puis de nous avoir sensibilisé sur Septembre en or, dont nous parlerons désormais. Et puis, merci aussi pour vos actions face aux effets collatéraux entraîné par la maladie et dont on parle trop peu. À bientôt, j'espère. Au revoir, Vanessa.
Merci.
À bientôt, au revoir. On marque une pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre?
Toi et moi, cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux, ma main dans tes cheveux.
Pardon, j'avais perdu le fil. IDFM 98 ou 98.fr, nous venons d'entendre Zaz, toi et moi. IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct avec pour invité dans notre studio. Donc, nous venons d'avoir l'interview de Vanessa DeVos par téléphone, vice-présidente fondatrice de l'association Élise Princesse Courageuse, une association créée le 11 décembre 2018 et reconnue d'intérêt général. Colin Auclair, responsable chez GE Healthcare de produits santé de la femme, secteur mammographie et radiologie en France, au Benelux et en Afrique francophone, et Cecilia Olson, manager GE Healthcare de cycle de vie en produits de la santé de la femme dans la mammographie et patiente advocate ou ambassadrice des droits des patients. Colin Auclair, pour la deuxième année, le camion d'Octobre Rose va sillonner plusieurs routes en allant à la rencontre du grand public. Caroline Nouveau, que nous connaissons bien aussi, supervisait récemment les derniers préparatifs du camion. En quoi cette initiative soutient les actions d'abord des radiologues sur le terrain ?
Déjà, merci pour l'invitation. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Octobre Rose et pourquoi on parle du cancer du sein? Parce que c'est le cancer féminin le plus fréquent et le plus mortel, avec près de 58 000 cas et 12 000 décès annuels. Et donc, si on regarde les chiffres et qu'on les transpose le long de la vie d'une femme, ça représente une femme sur huit qui sera touchée par ce cancer. Donc, ça en fait un sujet majeur de santé publique.
Bien sûr.
Et en revanche, si ce cancer est détecté suffisamment tôt, les taux de rémission sont excellents, de l'ordre de 95%. Et c'est pourquoi, depuis le début du XXIe siècle, en fait, plusieurs pays européens ont mis en place des dépistages organisés pour inciter les femmes entre 50 et 74 ans à venir se faire dépister le cancer du sein pour essayer de détecter cette maladie le plus tôt possible. Et donc, ce dépistage est organisé et coordonné par des institutions de l'État, en l'occurrence le CRCDC, et en collaboration avec les professionnels de santé, il invite les femmes à venir faire un examen de mammographie pour détecter cette maladie.
Peut-être, Colin, enfin, vous allez nous le dire, mais peut-être qu'il faut préciser que le problème, c'est que une femme sur deux ne se fait pas dépister, et d'où l'enjeu de cette action.
Tout à fait. L'objectif d'Octobre Rose, c'est de sensibiliser à l'importance de venir se faire dépister, parce qu'aujourd'hui, encore trop peu de femmes viennent faire leur examen et n'accèdent pas à cette possibilité de se faire détecter tôt. Et donc, l'objectif de cette initiative, d'aller à la rencontre des franciliennes pour avoir des informations sur l'importance du dépistage, avoir des ateliers pour apprendre quels sont les signes qu'il faut surveiller et qui vont inciter à aller consulter un professionnel de santé. Et c'est donc voilà tout l'objectif de cette initiative, c'est d'insister sur l'importance de se faire dépister.
Oui, parce que on a constaté aussi que globalement, depuis quelques années, précisément, la prévention recule. Est-ce qu'on connaît les causes du fait que les femmes ne veulent pas se faire, certaines femmes ne vont pas se faire dépister?
Il y a plusieurs causes différentes. Les raisons principales, c'est la première, ne pas savoir. C'est une question de
faire l'autruche.
Faire l'autruche, ou ne pas avoir accès à l'information, ne pas avoir accès à un professionnel de santé suffisamment proche pour pouvoir faire son dépistage. Donc ça, c'est une raison numéro un. Raison numéro deux, c'est aussi l'angoisse qui est générée autour de cet examen. Alors la peur du résultat, la peur de savoir qu'on est malade, et aussi la peur de l'examen en soi, puisqu'on connaît le principe de la mammographie, on sait que ça peut être douloureux, et du coup on peut avoir peur de cet examen et ne pas vouloir passer par cette épreuve-là.
Et donc ce mois d'octobre rose, parce que les radiologues sont bien évidemment complètement prêts à dépister, hein, c'est incontournable, mais octobre rose leur vient en aide avec cette campagne.
Tout à fait, c'est un travail qu'ils font toute l'année. Ils accueillent les femmes et font des dépistages et des mammographies toute l'année. Et c'est une aide pour eux, un outil de communication pour eux, pour sensibiliser ces femmes à l'importance du dépistage.
Alors, nous l'avons dit en préambule, GE Healthcare est un pionnier dans l'imagerie médicale. Et là, en partenariat avec Roche, cette action du camion d'Octobre Rose soutient l'initiative de ce mois d'Octobre Rose.
Tout à fait. General Electric est effectivement un pionnier dans l'histoire de la mammographie. Ça se sait peu, mais le premier appareil de radiologie dédié à la mammographie est une invention française qui a été inventée par la Compagnie Générale de Radiologie et qui est sortie pour la première fois en 1966. Alors depuis, CGR a été intégré à General Electric l'innovation a continué. C'est toujours un fleuron d'entreprise française. C'est toujours inventé, designé, fabriqué dans les Yvelines, à Buc, à côté de Versailles. Le mois d'octobre rose a une dimension toute particulière pour l'entreprise parce qu'elle a toujours été investie sur la recherche du cancer du sein.
Et quels sont, enfin, je crois que GE Healthcare, enfin General Electric peut-être, c'est mieux de tout dire, a aussi des solutions de diagnostic innovantes, sans douleur, si vous voulez nous en parler.
Donc voilà, cette histoire sur la sénologie, les appareils dédiés pour la mammographie, elle a commencé donc en 1966 et parmi ces révolutions toutes récentes et les innovations qui ont été développées, ça a été par exemple le fait d'intégrer la dimension confort de l'examen ou réduction de l'inconfort de l'examen directement dans le design de l'appareil. On peut citer un exemple. C'est la toute première fois qu'on va avoir sur un appareil de mammographie la possibilité d'avoir une télécommande qui va pouvoir permettre au patient de participer à son examen. Et en participant à cet examen, on détourne un petit peu l'attention et on aide à réduire l'anxiété qui peut être générée par cet environnement médical qui peut parfois être froid ou inconnu et qui peut générer du stress et de l'angoisse. Donc c'est un exemple d'innovations qui peuvent être pensées sur les mammographes pour aider justement les femmes à venir se faire dépister. On a une deuxième innovation toute récente qui a fait l'actualité scientifique récemment, c'est la possibilité d'avoir un autre type d'image sur le mammographe, une image qu'on fait habituellement sur un IRM. On sait que les IRM aujourd'hui ont des délais d'attente qui peuvent être relativement longs.
Oui.
Et lorsqu'on a besoin d'informations complémentaires, lorsqu'on sait que son résultat de mammographie n'est pas négatif et qu'on est dans l'incertitude, le temps d'attente pour un nouvel examen peut être aussi extrêmement anxiogène.
Angoissant,
anxiogène. Et donc, le fait de pouvoir réaliser maintenant cet examen directement sur le mammographe sans avoir besoin d'un délai d'attente de plusieurs semaines. Voilà, c'est une innovation qui va pour l'amélioration du confort des femmes.
Peut-être une innovation soufflée par Cécilia Olson, elle nous dira tout à l'heure en tant que patiente avocate. Colin Auclair, cela vous a donné du coup, a donné à General Electric une longueur d'avance, on peut le dire.
Alors, l'innovation sur les mammographies a toujours été quelque chose d'extrêmement important pour l'entreprise, et il se trouve que effectivement depuis plusieurs années, c'est ce mammographe Made in France qui est le plus installé dans les cabinets de radiologie, dans les hôpitaux et les endroits qui sont dédiés au dépistage du cancer du sein, tout à fait.
Alors, en vous écoutant, je pense moi-même, je me dis, mais comment peut-on savoir si on va chez son radiologue qu'il est appareillé de chez GE, de General Electric? C'est possible?
Non, je pense que c'est important qu'il y ait cette séparation.
Non, mais ça peut encourager les patientes à aller plutôt.
Non, mais c'est entre nous les femmes qu'il faut qu'on communique, oui, qu'on partage une expérience positive quelque part, plutôt que de toujours partager des expériences négatives.
Cécilia Olson,
on peut inciter nos copines et nos mamans d'aller là où il faut aller.
Parce que les radiologues n'affichent pas leur matériel.
Si, certains le font et certains sont très fiers d'avoir investi sur du matériel français qui a la pointe de la technologie et qui va pour l'amélioration des examens de leurs patientes. En revanche, en tant qu'entreprise, nous, on ne souhaite pas faire de la promotion directement aux patientes, puisque c'est moins notre rôle. C'est un environnement qui est régulé. C'est important qu'il soit régulé, justement pour pas biaiser non plus.
Oui, pour pas faire de la concurrence déloyale quelque part. Bien sûr. Non, mais je pensais aux radiologues. Voilà, il faut qu'ils affichent.
Tout à fait. Cet appareil sera installé dans le camion d'Octobre Rose, qui va donc à la rencontre des Franciliennes, avec une première date la semaine prochaine, mardi, à Place de la République. Et il va enchaîner 18 dates tout autour de l'Île-de-France. Donc ce qui est important dans cette initiative, c'est qu'on a d'une part le camion avec un médecin radiologue qui va réaliser les examens, mais aussi un village prévention avec des intervenants de Roche, notre partenaire industriel, mais aussi des sages-femmes et des professionnels de santé du CRC Île-de-France qui vont être là pour donner de l'information, des ateliers d'autopalpation et tous ces éléments qui sont importants, qui vont en plus de l'examen.
Un examen qui, bien évidemment, est gratuit dans le cadre de la...
Dans le cadre du dépistage organisé, il est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale.
Très bien, très bien. Alors, ce parcours du camion d'Octobre Rose aura 18 étapes. Est-ce que vous pouvez peut-être... Vous avez la liste de ces étapes, Colin?
Alors, j'ai la liste, je peux les citer rapidement et surtout vous dire où les retrouver pour les personnes intéressées qui souhaitent prendre rendez-vous. On aura donc Place de la République du 4 au 7 octobre, le 10 à Ivry-sur-Seine, le 11 à Versailles, le 12 à Étampes, le 13 à Courdimanche, le 14 à Ris-Orangis, le 17, 18 et 19 octobre au Bourget, le 20 octobre à Gentilly, le 21 à Arcueil, le 24 à Pontoise, le 25 à Saint-Ouen, un petit passage par Paris le 26 octobre et le 27 à Saint-Denis. Et toutes ces dates sont disponibles directement sur Doctolib. Il suffit de taper camion d'Octobre Rose pour retrouver l'ensemble des dates et les rendez-vous disponibles pour les examens de mammographie.
Et aussi, c'est tout l'intérêt de pouvoir même prendre rendez-vous avec via Doctolib.
Absolument, on peut directement prendre rendez-vous sur l'application ou sur le site de Doctolib qui s'associe à l'initiative.
C'est ce que j'allais dire, Doctolib, qui bien évidemment s'associe à votre belle action. Je voudrais juste qu'on revienne une minute sur votre centre de mammographie qui est basé, votre centre d'excellence qui est basé à Buc. Combien d'ingénieurs se trouvent dans ce centre?
Alors, ce centre d'excellence, donc, qui accueille plusieurs spécialités, on a environ 2000 collaborateurs sur ce site, dont 150 ingénieurs qui sont dédiés à la recherche et développement en mammographie. Mais on a aussi une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui fabriquent ces mammographies pour le monde entier. Ils sont fabriqués, voilà, à Buc dans les Yvelines et ils sont ensuite exportés, donc, installés évidemment en France pour les radiologues français qui, concernés et, partout dans le monde.
Et alors, j'ai noté que vous avez des appareils, enfin, je suppose, s'appellent Pristina et Duetta. Qui sont-elles? Ou alors, qui sont-ils? Je ne sais pas.
Pristina, c'est vrai que le nom de Scénographe Pristina, donc Scénographe, qui est le nom du premier mammographe au monde, et on a voulu garder cet héritage, donc de Scénographe. Et Pristina, pour plusieurs raisons. La première, Pristina, c'est aussi un nom de femme, donc c'est pour féminiser la machine. La seconde, c'est que Pristine, en anglais, ça veut dire immaculée. Et donc, c'est pour aussi associer cette notion de douceur,
de féminité
à l'appareil.
Oui, c'est très, c'est joli. Et Duetta?
Et donc Duetta, qui est le nom de cette télécommande qui permet aux patients de participer à l'examen, de participer à la compression. L'idée derrière Duetta, c'est l'idée de duo, et en fait de duo entre le manipulateur radio, qui est la personne qui s'occupe de la patiente, et qui la positionne sur l'appareil et qui réalise l'examen à proprement parler. Et donc, notion de duo entre le manipulateur et la patiente pour que l'examen se passe le mieux possible.
Alors, il est question aussi de angio. Pardon si je pose des questions qui ne sont pas les bonnes questions, mais il est question aussi d'angiomammographie. Est-ce que c'est une autre innovation ou c'est ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure?
Donc, c'est cette seconde innovation est une alternative à l'IRM.
Oui,
qui a,
c'est ça, d'accord.
Et qui a fait partie de l'actualité scientifique parce que une innovation, c'est une étape techniquement d'avoir une innovation, mais l'étape suivante, c'est qu'elle puisse faire partie des parcours des patientes. Et donc l'actualité a fait que l'AHS a introduit cette angiomammographie dans les recommandations, dans certains cas d'utilisation, à la place de l'IRM. Et surtout, la Caisse primaire d'assurance maladie, depuis juillet de cette année, a créé une cotation spécifique pour l'angiomammographie, ce qui en fait un examen remboursable pour les patientes qui auraient besoin d'y avoir accès. Donc c'est des étapes qui sont fondamentales le développement d'une technologie.
Bien sûr. Colin Auclair, je voudrais vous poser une autre question. J'ai dit aussi dans votre présentation que vous rayonnez donc en France, au Benelux et en Afrique francophone. Est-ce que les problèmes, enfin les réactions des femmes se retrouvent quel que soit le lieu géographique, ou vous avez noté vous-même des différences?
L'anxiété générée par l'examen est partagée par toutes les femmes. Là où on va avoir des grosses différences, on a la chance par exemple en France et en Belgique d'avoir des dépistages organisés par l'État, et donc des lettres d'invitation qui vont convoquer ces femmes aux examens de dépistage. C'est pas encore le cas dans les pays d'Afrique francophone, où là, les cas sont du coup détectés plus tardivement, et où du coup le taux de rémission est moins bon.
Il y a beaucoup d'éducation à faire là-bas.
Beaucoup de chemin à faire encore pour sauver la vie de ces femmes qui sont touchées par le cancer du sein.
Merci beaucoup Colin pour cette présentation très éclairante. On souhaite beaucoup de succès à cette deuxième édition du camion d'Octobre Rose de General Electric Santé. Et je rappelle que depuis plus de 50 ans, donc General Electric Santé partage avec Roche les mêmes objectifs: faire avancer la recherche et le développement en oncologie pour apporter le meilleur de l'innovation médicale et optimiser les parcours de soins. Merci à vous.
Merci.
On fait une nouvelle pause avant de continuer l'émission avec Cécilia Olson. À tout de suite.
On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto.
Nette les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en tri de conflit et prier très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même balle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Il y a l'État, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulier.
Face à la mer.
S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer.
Jeune pour mourir.
Face à la mer par Calogero et c'est sur IDFM 98 ou 98.fr. Merci d'être resté avec nous pour la suite et fin de l'économie en direct où ce matin nous parlons de recherche et prévention contre le cancer avec Vanessa DeVos qui nous a donné son témoignage pour l'association Élise Princesse Courageuse et avec moi dans le studio Colin Auclair, responsable chez General Electric Healthcare de produits santé de la femme secteur mammographie et radiologie en France, au Benelux et en Afrique francophone, et Cecilia Olson, manager chez General Electric Healthcare de cycle de vie en produits de la santé de la femme, dont la mammographie, et surtout patiente advocate, c'est-à-dire traduisée par ambassadrice des droits des patients. Cecilia, merci d'avoir souhaité revenir sur IDFM 98 pour lancer cette deuxième édition du Camion d'Octobre Rose. Ça me touche beaucoup. Cecilia, pourquoi alors nous avons vu avec Colin Auclair que ce Camion Octobre Rose allait soutenir les radiologues. Et vous, vous venez nous dire que c'est une initiative qui soutient surtout les femmes.
Alors, merci encore de nous savoir. On avait dit jamais 203, mais je pense que ce sera jamais 4 ou 500, voilà.
Avec grand
mais
plaisir.
Je dois réagir quand même au sujet précédent. Et encore une fois, vous avez trouvé des sujets incroyables, Jacqueline, parce que Donc Vanessa et Elise, sa princesse, si je peux juste revenir quelques années en arrière, cette semaine est très symbolique pour moi parce que je revenais moi-même après tous mes traitements, donc un cancer de sein de genre pas sympathique.
Oui.
Et donc c'est une semaine très symbolique et l'acceptation des femmes quand on apprend qu'on a un cancer de sein, chaque femme cherche sa raison, se victimise, se relève pour vraiment faire face. Et il m'a fallu que quelques heures, quand j'avais eu mon diagnostic de mon cancer, de ne pas victimiser, de me dire mais en fait, heureusement que j'ai ça, heureusement que c'est moi, parce que j'étais rentrée, je regardais mes enfants, j'ai deux princesses à la maison qui s'appellent Maya et Nora, je les nomme parce que c'est des filles incroyables. Et ben, c'était mes princesses, je les ai regardées, je me suis dit, mais heureusement que c'est moi qui ai un cancer et pas une de mes filles ou mes filles. Donc, Vanessa, c'est une femme formidable. Elise, évidemment, elle a laissé une empreinte incroyable aussi derrière elle. Et la raison pourquoi je suis le camion, pourquoi ma raison d'être tellement fière de travailler avec Colin et son équipe, c'est il faut qu'on prenne soin des mamans pour qu'elles puissent être là pour leurs enfants. Donc c'est là, c'était évidemment, je ne peux pas faire le lien autrement entre Vanessa et le sujet qu'on aborde aujourd'hui parce qu'on est là pour les mamans. Et ma raison de camion et pourquoi on fait ça, pourquoi on bosse avec avec la radiologue, avec mon entreprise, c'est effectivement j'ai mon histoire de femme, de maman, mais aussi de patiente et aussi ma vue entreprise. Donc je sais qu'on peut chercher un peu les limites et les dépasser pour faire tout ça pour les femmes. Évidemment, mon but c'est de communiquer avec les femmes la même chose que Colin a dit. C'est une question de information, de éducation, de parler une langue claire avec des mots simples. Pourquoi il faut se faire dépister avec une terminologie que les femmes comprennent. Bien souvent, on a tendance à se dire bon, c'est pas la peine qu'on lui explique ça et ça, mais si, il faut expliquer avec des mots clairs.
Il faut toujours répéter encore et encore.
Expliquer les technologies qui existent, expliquer aussi quels sont des choix à faire. Aussi, j'en profite pour parler avec nos clients aussi, dire mais vous avez un choix quand vous choisissez un partenaire, comment on compte refaire le parcours des femmes. Par exemple, que Colin ait parlé de la Pristina et de cette nouvelle innovation, mais moi je suis là pour leur dire, vous savez combien de rendez-vous ça fait en moins pour une femme, combien de moments d'angoisse en moins, combien de passages de salle d'attente en moins. Donc ça c'est mon rôle. Donc évidemment je parle avec les femmes pour leur dire vous avez des choix à faire, de prendre soin de vous et aussi dans mon entreprise. Donc ça c'est mon rôle. Et pourquoi j'ai voulu faire ça encore cette année, c'est que maintenant j'ai le vécu de l'expérience de l'année dernière. Évidemment, je vis sur le verbatim des femmes que j'ai rencontrées l'année dernière. Évidemment, des femmes dans des quartiers un peu plus difficiles où il faut aussi être culturellement sensible à autre chose, aux traditions, aux héritages de famille parfois de ces femmes, un mariage de langue. Et les rencontres que j'ai pu avoir, c'était juste incroyable. Et j'en ai des frissons dès que j'y pense parce qu'il y a vraiment une magie qui s'opère. Entre femmes, on se parle parce qu'on sait que toutes ces statistiques, ces brochures, ça ne parle pas
ça
aux
ne
femmes.
Parle pas, en
mais
tout cas pas autant.
De bloquer le chemin des femmes comme ça, avec un camion, avoir quelqu'un qui les chope par le bras pour dire « mais vous savez quoi, il faut y penser pour telle et telle raison ». Et donc ça c'est aussi aller à l'encontre des femmes qui sont les invisibles. Il y a eu un film incroyable sur les invisibles. Eh bien, l'année dernière, je garde en tête Angélique et Saya, qui étaient devant le camion et qui se disaient, bon, encore quelque chose qui n'est pas pour nous. Elles avaient un papier, donc évidemment, elles n'avaient pas leur papier parce que c'était des femmes de la rue. Et je les entendais parler, je disais, bon, encore un truc, c'est pas pour nous. Et puis elles ont rebroussé chemin et je suis
rentrée
dans le camion et j'ai demandé à notre partenaire radiologue, je dis mais est-ce qu'on peut pas les prendre? Il a dit bah si, pourquoi non? Et donc j'ai couru après et on a pu les avoir dans notre camion, je les ai invitées à déjeuner et j'ai essayé de rester en contact mais depuis elles ont disparu, peut-être j'espère les retrouver dans le quartier, peut-être à la République la semaine prochaine. Donc c'est des souvenirs incroyables et qui évidemment c'est ma raison de enfin de, oui, de
votre
faire
raison
tout
d'être
ça, et de se lever le matin et se dire mais pourquoi je fais ça, et ben moi je sais exactement
vous savez pourquoi.
Voilà.
Oui avec votre expérience de la maladie aussi, vous êtes c'est ce que je disais tout à l'heure à Colin Auclair, vous êtes une formidable interface entre les patients, la technologie et puis les femmes surtout, hein, absolument. Alors parlez-nous justement enfin on reviendra peut-être sur le camion. Oui, ce que je voulais dire, oui, je me perds un peu. Le camion d'Octobre Rose, c'est un camion très très important, hein, très imposant. Oui. On ne peut pas le louper, hein. C'est comme un semi-remorque,
oui.
Puisqu'il faut vraiment pouvoir aménager ce laboratoire finalement.
Oui, oui. C'est une mini clinique, c'est un mini parcours. Donc il y a la petite salle d'attente, il y a le coin lecture d'images, il y a l'accueil où on accueille les femmes pour leur carte vitale, le petit passage administratif. Il y a évidemment la salle d'examen où on va pas l'appeler manipulatrice, mais une personne attend les femmes pour faire l'examen, donc sur la Pristina. Et il y a aussi un passage sur l'échographe, parce que aujourd'hui, il faut toujours une deuxième vue, parce qu'on parle pas assez des scindences. Donc les scindences, on a besoin d'autres types d'images.
D'accord.
Pour des tumeurs qui ne se, à cause des seins qui
que
sont denses, un tissu qui est différent.
Qui ne se verra pas.
Et bien souvent, les femmes ne savent pas que pour indiquer au médecin, j'ai des scindences. Vous êtes sûr qu'il ne me faut pas une échographie par-dessus, juste après les rayons X, on va dire, d'une scénographe. Donc ça, on essaye de faire ces deux examens qui sont primordiaux et qui sauvent des vies. Voilà.
Voilà, un examen qui est de qualité, qui est réalisé par des experts sur du matériel haut de gamme.
Mm-mm.
Et vous l'avez dit aussi en nous parlant de Alexandra Essaya, vous allez chercher les femmes là où elles se trouvent.
Oui.
C'est très important,
oui.
Ça.
Angélique, pardon. Oui, alors, évidemment, il ne faut pas s'y méprendre. C'est vrai que c'est un gros camion. Il y a des jolies images. Donc, le but, évidemment, va être visible. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les femmes, on a ouvert quelques yeux. Il y a des femmes qui se disent, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et ça pique un peu leur curiosité. Par exemple, ça c'était pareil au milieu de Paris l'année dernière. Et c'est sur un vélo, en route pour le travail. Elles se sont dit, donc elles ont fait demi-tour, elles sont parties chercher leur ordonnance qui est au fond d'un tiroir. Elles sont revenues parce qu'on était visible. Évidemment, on a installé des tentes, des ateliers autour. Donc c'est vrai qu'on bloque un peu de place au milieu de la place parisienne, mais c'est beau. Mm-hmm. Et ça fait un événement, ça ouvre les yeux. C'est positif, je ne dis pas que c'est pas un événement gay, peut-être aller faire un mammou, mais ça le devient presque. Et il y a des femmes qui l'ont fait vraiment avec le sourire. Elles sont passées de temps à discuter devant. On a des ateliers de autopalpation aussi. Donc, moi-même, je vais avoir un atelier de lecture, juste un lire une histoire ou deux, pour vraiment avoir l'attention des femmes d'une autre manière, parce que c'est comme ça qu'on les intéresse.
Que vous allez les fédérer, bien sûr. Et puis, il faut préciser que ce test dure moins de 20 minutes. Donc, 20 minutes pour détecter peut-être une tumeur, c'est peu de temps.
Oui, mais ce que je tiens à préciser, c'est que c'est un examen plutôt rapide. L'année dernière, c'est vrai aussi qu'on a été victime de notre succès. Et ce qu'on ne souhaite pas, c'est de dépêcher les femmes, parce que c'est un autre type d'événement. Donc, on a fait le choix de discuter avec elles et de ne pas les presser et avoir un timing à la minute.
Vous voulez pas
bâcler. C'est pas ça qu'on a envie de faire. Donc, les femmes se sont rendues disponibles parce qu'elles avaient envie de vivre cette aventure avec nous. Mais voilà, on va essayer de tenir l'agenda cette année.
Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'opération de l'année dernière, le nombre de femmes qui ont été dépistées?
Oui, je crois que c'était dans les 250 femmes, à peu près.
C'était l'objectif que vous étiez fixé, vous aviez...
Non. Alors, je pense qu'on était très, très timide dans les estimations l'année dernière. Donc... Donc c'était, je pense qu'on a complètement dépassé nos attentes.
Vous crevez le plafond.
Oui.
Colin Auclair, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je pense que plus que le nombre d'examens, l'objectif premier, Dr. Bourbeau, c'est vraiment d'augmenter la sensibilisation, la communication, d'informer, d'apprendre autour du cancer du sein. Et si en plus on peut en profiter pour faire l'examen, parce qu'il y avait un créneau, parce que ça passe à côté de chez nous, c'est parfait.
Voilà.
Mais l'objectif vraiment premier, c'est cette information qui, c'est difficile d'estimer le nombre de personnes qui ont pu être sensibilisées par l'opération, mais c'est plus que le nombre d'examens de 250.
Oui, le but, c'est que ces femmes, à vous entendre, ce sont des examens qui se sont bien passés, hein, même si on peut peut-être mettre des guillemets, mais il y a un bouche à oreille qui a certainement fonctionné derrière. Peut-être que cette année, vous allez doubler le chiffre, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite.
Ouais. Bon, pas
même
forcément
si vous,
dans,
ce que
dans
vous
le
voulez,
camion,
c'est...
mais en tout cas avoir l'opportunité de parler. Avec Roche, on fait des satellites d'autopalpation parce que il y a aussi, et c'est ça mon rôle, c'est aussi de dire aux femmes, il faut être sensible à son corps et l'autopalpation est très, très importante. Et donc, du coup, on a des ateliers avec Roche dans ce sens-là. Et ce sont aussi des ateliers où la parole des femmes s'ouvre, puisque ça s'effectue sur un buste, sur, on dirait, vraiment des vrais seins. Donc, on apprend vraiment aux femmes de reconnaître sous ses doigts quelque chose qui leur semble pas normal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses autour de camions. Voilà.
Alors, cette opération est soutenue aussi, bien sûr, par, je pense, les communes, hein, les élus de chaque commune, et où il y a beaucoup de femmes maintenant, qui vous soutiennent à fond.
Oui. Non, oui, parce qu'on nous a dit, mais en fait, il faudrait un camion dans tous les quartiers toute l'année. Oui, d'accord. mais ça devient. Il y a beaucoup d'entreprises qui aident d'autres acteurs dans ce secteur qui se disent, en fait, si on prend soin de la femme, on résout pas mal de problèmes d'ordre public, de santé publique, des indicateurs clés de la société s'améliorent si on prend soin des femmes. Je ne dis pas parce que nous sommes des piliers, mais
c'est presque ça,
quand une femme s'absente et sort du circuit, comme moi j'ai pu le faire pendant une année, et encore il faut des années de reconstruction, etc. C'est vrai que la famille tourne quand même un peu différemment, pas moins bien, mais différemment, et c'est vrai que ça a un coût personnel, mais aussi un coût dans la vie de tous les jours, donc... Voilà. Donc, je pense qu'avec un camion, on reçoit pas mal de problèmes en même temps.
Très bien. Cécilia, je propose qu'on fasse une courte pause encore, et puis après, vous allez nous parler de votre rôle de patiente advocate.
Oui, à la tête.
Bye.
Love is All par Roger Glover, un titre de 1976, mais on chante tous ensemble ce titre encore. Merci d'être resté avec nous. Nous parlons aujourd'hui de Octobre Rose. Nous avons parlé juste avant de Septembre en Or. Et j'ai dans le studio avec moi Colin Auclair et Cécilia Olson de l'entreprise General Electric Santé. Cécilia, donc vous avez ce rôle de patiente avocate, avocate des patients, ambassadrice. Expliquez-nous ce rôle d'ambassadrice.
Oui, alors c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très français, patient advocate, même quand on le traduit en français.
Oui, moi je dis patient, enfin, voilà,
Ça veut dire exactement ça, mais c'est vrai que le mot c'est peut-être ambassadrice, porte-parole des femmes. Évidemment, on ne se permet pas d'être porte-parole si on n'a pas vécu quelque chose soi-même. Et comme je dis, c'est la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que j'ai des cartes incroyables en main, parce que effectivement, je travaille dans mon entreprise depuis une dizaine d'années, donc je connais quand même comment fonctionne une grosse structure comme nous, les limites aussi, les avantages qu'on peut avoir. Je connais ma vie de patiente. Est-ce qu'il me faut de l'autre côté? Qu'est-ce qui peut m'aider? Et évidemment, je connais aussi nos clients, un peu pareil comme nous, avec les avantages et les inconvénients et les limites, et etc. Mais j'ai quand même cette vue où je sais à peu près où je... Comment je peux titiller chacun de ces acteurs de faire les choses un peu différemment? Je le fais au nom des femmes. Et au nom de femmes et au nom des patientes, parce qu'on n'est pas forcément patient. Quand on va pour une maman, on nous appelle patiente, mais je m'estime pas patiente parce que je ne suis pas malade. Donc j'essaie vraiment de
oui, c'est la terminologie.
Exactement. Donc j'essaie de humaniser un peu le discours et d'être présent, on va dire, sur trois sujets ou trois domaines, si je peux dire. Donc la première, c'est d'être la porte-parole. Et je sais aussi que il y a de plus en plus des entreprises comme nous ou d'autres aussi dans la pharmacie fait de plus en plus appel aux patients parce qu'ils ont compris qu'en fait on vaut de l'or parce que on sait et on a un peu la recette gagnante de ce qu'il faut faire pour que nous on aille mieux. Donc des entreprises comme nous, on voudrait bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc on sollicite de plus en plus des femmes, mais il est important de qu'est-ce toutes ces patients, hommes ou femmes d'ailleurs, peu importe, on va dire, le diagnostic, il y a des droits par rapport aux données privées, de ne pas se faire exploiter et surtout être encadré comme il faut parce qu'il ne faut pas que ça dépasse quelques limites, ou ce n'est plus sain ni pour l'un ni pour l'autre. Et le deuxième, c'est effectivement dans mon entreprise, pareil, comme je disais la dernière fois, je suis l'amie des femmes, ni de mon entreprise ou ni des clients, avec ma casquette de patient advocate. Donc le but, c'est d'inspirer nos équipes, de leur demander de faire les choses autrement. Quand on développe des documents, de faire attention aux mots, parce que chaque mot compte quand on a affaire avec des experts.
Au niveau de la communication, c'est très important.
Et après, c'est vraiment mon propre action avec mes histoires, mes podcasts, mes blogs, pour vraiment être un peu la accompagnée des femmes. Je reçois parfois des amis, des collègues qui me disent « Tu voudrais pas parler avec tel et tel parce que... » Bon, voilà. Et donc, du coup, je deviens un peu
une
petite lumière au bout du tunnel de quelqu'un. Et ça, c'est devenu très important pour moi parce que c'est toujours ma propre thérapie. Parce que, pour rappel, le cancer ne nous quitte plus, même si on s'estime guéri, ça peut revenir n'importe quand, sous une autre forme, etc. Donc, c'est pour ça que tous les jours,
c'est une seconde nature.
C'est ça.
J'avais noté l'année dernière cette formidable détermination que vous aviez aussi lorsque vous m'aviez expliqué que vous aviez un petit carnet dans lequel vous aviez noté les kilomètres, le nombre d'heures passées à attendre. Et donc je sais qu'aujourd'hui vous par ailleurs aussi vous avez un vrai combat pour réduire ces attentes et puis faire que tout soit concentré.
Oui, mais c'est ça mon rôle. Certes, dans mon vrai travail chez General Electric, je travaille sur des produits, sur des innovations avec les équipes. Mais effectivement, j'avais mon journal intime et aujourd'hui, c'est devenu ma mine d'or parce que effectivement, j'avais écrit tous les jours de ce que je sentais, ce que j'avais vu, ressenti, l'attitude des médecins, soignants Et tout ce que j'ai ressenti, c'est ça que j'ai envie d'améliorer aujourd'hui. Donc, par exemple, quand on parle d'un parcours de soins, quand on parle d'expérience patient, c'est pas un concept, c'est vraiment une culture. Donc, je sais, c'est ce que je disais par rapport au, quand on parle des innovations chez nous, quand on parle de One Stop Clinic, cette espèce de clinique qu'on peut tout faire en une journée, eh ben, je peux dire à nos équipes exactement de combien de rendez-vous en moins ça me représente. Je sais combien de fois au moins je vais devoir attendre des résultats qui sont angoissants. Comme je disais aussi, le passage dans la salle d'attente, etc. Donc, on transpose vraiment la vraie vie des femmes dans un parcours et on essaie de le résoudre ensemble. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que toutes ces statistiques, je peux les rappeler en une seconde ici, mais ça dépend évidemment de degré de cancer que nous avons, mais pour ma part, ça représentait 3000 kilomètres de voyage, plus de 300 rendez-vous qu'on gère nous-mêmes. Mmh. Et je rappelle ici, admettons que je ne gère pas mes rendez-vous, le temps court et le degré de cancer peut quand même... ça va devenir un peu pire que ça l'était initialement. J'ai 15 ou 20 ans d'opérations. On attend plus de 20 fois des résultats. On se dit, mais est-ce que demain, je serai encore là? Qu'est-ce que j'oublie? J'utilise le mot trembler entre 8 différents sites parce que les experts ne sont jamais au même endroit. Les technologies ne sont pas réunies sous un même toit. Donc, c'est pour ça que je suis très fière de ce qu'on fait dans notre entreprise quand on parle de One Stop Clinic parce que ça réunit peut-être
toutes les expertises sur un même lieu.
Sur un même lieu. Donc, je me bats pour que notre entreprise et aussi nos clients sortent de leurs habitudes et deviennent centré sur la femme et vraiment se dire pourquoi on fait les choses. Pourquoi j'envoie ma patiente alors qu'elle est sous traitement à 30 km ici.
On va dire pétage-choc.
Donc il faut vraiment c'est vraiment un jeu transformationnel vraiment important. Il faut sortir des silos, il faut sortir des habitudes, il faut être parfois pas politiquement correct, mais sinon on ne change pas les choses. Voilà.
Donc, on peut dire que si vous avez des besoins à exprimer, ce sont vraiment ceux-là?
C'est évidemment de continuer à se demander pourquoi on fait les choses, de continuer tous ces partenariats parce que je ne fais pas les choses seule, notre entreprise ne fait pas les choses seule, Roche ne fait pas ça, nos clients. Donc, c'est vraiment de construire des partenariats dans la durée. Parce que l'impact se ressent sur les femmes. Voilà.
Oui, Cécilia, ce que je voulais vous demander, est-ce que, donc, à travers cette expérience patiente fondamentale, est-ce que vous voyez les choses... on parle de General Electric, bien sûr, qui est bien placé pour faire les changements avec vous, mais est-ce que ailleurs vous sentez que ça change cette expérience patiente?
Oui, enfin, il y a énormément d'associations ou d'organisations de patients. Je ne dis pas que c'est le mouvement patient, mais je sens que en Europe, il y a de plus en plus de patients qui donnent leur voix, qui sont invités à la table dans des entreprises comme les nôtres pour dire ce qu'il faut faire. Il y a les autres autorités de santé qui commencent à auditer aussi les parcours de soins d'une manière un peu différente. On voit aussi qu'il y a parfois les appels d'offres qui commencent à changer où on nous demande qu'est-ce que vous faites en dehors de la technologie, qu'est-ce que vous faites de bien.
Très bien.
Et je pense que de notre côté, on est prêt à montrer qu'on va bien au-delà de la technologie. Et donc, je pense que l'expérience patient, c'est un différenciateur incroyable, mais à chacun qui comprenne ce qu'il y a derrière ce mot. Donc, c'est pas un mot un peu à la mode, c'est vraiment une culture et une culture qu'il faut
développer, qu'il faut absolument développer le plus possible. On parle donc de l'alignement de technologie sous un même toit, redessiner le parcours de soins pour mettre la femme au centre de l'écosystème et puis non demander aux femmes de s'adapter.
Absolument.
C'est ça.
Oui.
Très bien.
Vous avez vu déjà comment c'est difficile d'aller chez le coiffeur.
Bien sûr.
Se dire, bon, ok, à partir de maintenant, il va falloir que je cale 300 rendez-vous dans mon agenda. Si on n'a pas de voiture, si on n'a pas de moyens de transport, comment une femme peut juste traverser son cancer de sein, Oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Voilà.
Et on peut dire que cette opération du camion d'Octobre Rose illustre parfaitement cette, cette adaptation aux femmes et pas le contraire, puisque vous allez à leur rencontre.
Absolument.
Merci beaucoup, Cécilia, pour ce témoignage. Merci, Colin Auclair, pour toutes ces précisions.
Merci.
Alors, l'émission va se terminer dans quelques minutes, mais avant de nous quitter, peut-être Colin Clair, si vous voulez rajouter quelque chose, une question que je ne vous ai pas posée ou un complément d'information.
Je vous remercie. Je pense que on a la chance d'avoir des gens de travailler avec des gens comme Cécilia dans l'entreprise. Ça permet de nous s'ouvrir les yeux sur de nous rappeler en fait tous les jours pourquoi est-ce que on essaye de faire de l'innovation, pourquoi est-ce qu'on essaye d'amener ça sur le terrain et dans les étapes de design quand il faut prendre des décisions, de bien nous rappeler quelles sont les choses les plus importantes pour améliorer la santé et avoir un impact sur tous, quoi, sur nos concitoyens.
C'est ça. Peut-être dire que une entreprise comme GE Healthcare qui est là pour faire des profits, il faut pas se voiler la face, a quand même cette volonté d'éthique et puis d'accompagner ses patients.
De le faire le mieux possible.
Ses clients et à travers ses clients, ses patients.
Absolument.
Merci Colin Clair. Cécilia Olson.
Non, merci encore de nous avoir et encore une fois, je pense que ce mois d'octobre, il a un goût encore différent. Parce que chaque année, il se passe de nouvelles choses. Chaque année, je rajoute un nouveau chapitre dans ma propre vie de survivante. Chaque année, il y a des choses qui se passent dans notre entreprise. Mais s'il y a bien quelque chose qui va marquer ce mois d'octobre, c'est déjà le vécu de ce qu'on a fait l'année dernière et le sentiment de... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on va produire de la magie parce qu'on a la recette un peu gagnante entre les mains pour les femmes. Et en plus, je pense qu'on aura du soleil.
Oui, ce qui va rien gâcher.
À Paris, donc je pense que non, vraiment, ça va être vraiment bien.
Tout va être au rendez-vous.
Je suis aussi dans une étape dans ma vie de femme. Je vais avoir 50 ans cette année.
Ah bah, vous les faites pas du tout.
Et je trouve que quelle belle vie j'ai. Je suis tellement fière. Et non, c'est vraiment chouette ce qu'on fait. Voilà.
Merci infiniment, Cécilia, pour toutes ces précisions, votre engagement, votre formidable parcours. Je rappelle que pendant un mois, le camion d'Octobre Rose, réalisé dans le cadre de la campagne de dépistage organisée, sillonnera les routes de la région parisienne pour proposer un test de dépistage gratuit du cancer du sein avec prise de rendez-vous sur Doctolib. Il s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans ayant fait une mammographie il y a plus de 18 mois et munies de leur invitation de prise en charge par l'assurance maladie à présenter dans le camion. Mais même si on n'a pas cette invitation, comme vous nous avez dit, vous pouvez courir après certaines femmes pour qu'elles viennent faire l'examen.
Oui. Voilà.
Voilà. Merci infiniment.
Merci. C'est au plaisir de rencontrer tout le monde.
Merci. Oui.
Merci. Merci Colin Auclair. Merci Cécilia Olson. Voilà, c'est la fin de l'émission. Mon tour de table est terminé. Merci à tous les trois, avec Vanessa, d'avoir participé en direct à cette émission. Merci Christophe pour la technique. Merci bien sûr à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas alors à en parler autour de vous. Et pour la réécouter comme bon vous semble, il suffit d'aller sur idfm98.fr et retrouver son podcast. Mardi prochain, nous parlerons de développement durable et commerce de proximité. D'ici là, très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches.
écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Sur le papier, un après-midi de janvier.